Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Un énorme dimanche de sport nous attend, vous attend à l'écoute d'RMC. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin, cette journée arc-en-ciel, cette journée des championnats du monde de cyclisme. On suivra tout depuis qu'il y a au Rwanda. On va y être dans quelques instants. Vos grandes gueules du sport aujourd'hui. On a un beau programme. Il est là, il a fait son retour depuis hier. Il est en très grande forme, quoique déjà un petit peu malade, Christophe Cessieux, déjà.
Oh, écoute, c'est le retour à la civilisation, si tu veux. Ah, oui. Enfermé comme ça dans une caisse pendant un mois, j'ai plus l'habitude. Je me suis rendu compte, ça faisait 3 mois que j'étais plus venu au bureau.
Non, monsieur,
donc là, dès que je vous rencontre, vous faites des beaux miens.
C'est ça. Christophe, qui a une oreillette pour écouter l'émission, là, elle ne marche plus. Non, en fait, c'est juste que tu es peut-être un vieux monsieur, Christophe.
Non, tu n'entends plus. La pile ne marche pas. Et tu vas la prendre sur la tête.
Ah, voilà. Cédric et moi, c'est là. Salut Cédric.
Bonjour à tous.
Cédric qui ne dort pas parce qu'il regarde la Ryder Cup.
Ah, exactement.
Ça finit pas si tard en même temps. Franchement,
ça finit aux alentours de minuit, mais ça commence à midi. C'est
j'espère qu'il sera plus en forme que Julien Beneteau hier, qui a mis du mal à rentrer dans l'émission.
Non, mais moi, j'ai dormi, j'ai fait ma nuit. Je suis
faut pas faire réveiller à 5h du mat par ta fille qui est rentrée de bonne nuit.
Non, exactement. Je lui ai dit, tu sors, tu vas chez ta copine.
C'est pas sa qualité première, Julien Beneteau, bien rentrer dans les émissions. Hein, pas un grand réveil à 9h.
Un peu
à partir de 10h, plutôt diesel.
Un peu diesel, ouais.
Plutôt diesel. Marc Madio est là. Salut Marc.
Salut.
Quelle journée, la journée des championnats du monde.
Super, ça,
franchement.
Le rêve absolu, c'est la journée où tu es devant la télévision, tu grignotes, tu zappes un petit peu, tu reviens sur la course et t'as 7 heures de bonheur.
Ah, tu rates pas un kilomètre, franchement, c'est ça, c'est dès le départ.
Un petit peu quand même, mais je m'imprègne progressivement du sujet.
Franchement, mais quelle journée. Lui, à 9h, il est toujours en forme. Pascal Duprat est avec nous.
Toute
salut Pascal.
Du jour et de la nuit, il est en forme. Ouais.
Bien sûr que je suis en forme. Bonjour les amis, comment allez-vous?
Bonjour.
Très bien.
D'autant plus en forme que Christophe est là. Mon compère, je vais pouvoir me fighter un peu avec cet énergumène.
On va se fighter alors.
Il t'avait manqué.
Déjà le premier sujet, j'imagine.
Bah oui, parce qu'on a un beau programme aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Les amis, à 10h sur le ring des GG. L'hécatombe des blessés au PSG. Faut-il s'inquiéter? Oui, Paris est leader ce matin, mais. Il commence à avoir de sérieux problèmes à l'infirmerie. Les GG remontent le temps. Il y a 37 ans, presque jour pour jour, Ben Johnson, champion olympique du 100 mètres, était contrôlé positif pour dopage 2 jours après son titre. Est-ce que c'est pas le plus grand scandale de dopage? C'est la question que l'on va vous poser. Capitaine Cessieux, bah oui, il est là maintenant, il prend le brassard tout le temps. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, capitaine?
Je vais vous parler de la situation compliquée pour les petites équipes françaises. Il y en a une qui est vraiment sur le point de disparaître, c'est Arkea BNB, et il y en a une autre qui sera pas mieux, puisque Total, sponsor français, grande multinationale française, a décidé de quitter la France pour l'Angleterre et pour s'associer avec Ineos. Magnifique, ça. C'est une très très belle perspective.
La maison brûle, mais il ne faut pas regarder à côté, nous dit le capitaine Cessieux ce matin. Dans votre vestiaire, après sa défaite face à Alcaraz à l'US Open, Sinner veut changer beaucoup de choses en 100 jeux. Est-ce que les champions peuvent se réinventer? Vous allez nous expliquer à travers vos expériences comment on fait. Et puis sur le buzzer, encore du vélo, mais un petit peu plus de la géopolitique. Là, hein. L'équipe Israël Première Tech a été exclue sur une course en Italie par les organisateurs pour des raisons de sécurité publique. Est-ce qu'un pas a été franchi? On parle de cette équipe qui avait déjà fait beaucoup parler d'elle sur la Vuelta et déchaîné des perturbations des manifestants pro-palestiniens. Souvenez-vous, en fin d'émission, les jeux du sport, envoyez sport au 7-32-16 pour participer. On a des beaux cadeaux à vous faire gagner aujourd'hui, une PlayStation 5 et le jeu eSport FC 26. A appelé le 32-16 touche 4, envoyez sport donc au 7-32-16. Notre WhatsApp 06-12-424-424 pour participer et le 32-16, vous en avez l'habitude. Mais d'abord, à la une des GG, qui veut la peau de Tadej Pogacar?
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Tadej Pogacar qui n'a plus que quelques coups de pédale à donner. Il donne de l'île de la tête, il passe de la gauche de la route vers la droite de la route. Oui, 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 Tadej Pogacar va le faire. 50 ans après Eddy Merckx le Belge, 37 ans après l'Irlandais Stephen Roche. Lui aussi va se parer de la triple couronne, vainqueur du Giro au mois de mai, vainqueur du Tour de France au mois de juillet. Tadej Pogacar va devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar, il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré champion du monde 2024.
C'était l'an passé à Zurich, le rêve arc-en-ciel s'était réalisé pour Tadej Pogacar. C'est l'une des courses de l'année en cyclisme, peut-être la plus belle. Cette course qui se déroule cette année pour la première fois en Afrique, Kigali au Rwanda. Un immense favori, vous l'avez entendu, Tadej Pogacar veut conserver son titre au cœur d'une saison de cannibale. Vainqueur du Tour, du Dauphiné, de Liège-Bastogne-Liège, du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne, des Estrades Bianches. Il en a gagné des choses. Le Slovène fait peur à tout le monde. Certains grands noms ont renoncé aux mondiaux, peut-être pour éviter sa route, même si le roi Poggi a été humilié par Evenepoel dimanche dernier sur le chrono. Les GG, je vous pose cette question. Oui ou non, la victoire peut-elle échapper à Pogacar? Christophe Cessieux.
Oui.
Oui. Marc Madiot.
Oh oui.
Cédric Emans.
Oh non.
Pascal Dubras.
Oh oui.
Oh, vous êtes enthousiaste en tout cas. Oh oui, oh non. Oh, on va en parler dans quelques instants et on vous attend au 32-16. Envoyez vos messages, évidemment. On prend la direction de Kigali, au Rwanda, pour retrouver nos envoyés spéciaux, Maria Azé et Jérôme Coppel. Bonjour les amis.
Salut, Jean. Salut à tous.
Salut.
Bon, ça va, il fait pas trop chaud chez vous là? Vous avez fait quoi? Vous avez du lin?
Un petit 30 degrés, on est pas mal.
Ah ouais, un petit 30 degrés.
26 degrés. Non, 26 ou pas encore? 26. Pas encore, on a peur de boire la tasse et d'avoir deux, trois problèmes. Donc on évite un peu l'eau.
Il y a des problèmes en piscine, vous savez bien.
Ouais, alors là, ça serait pas les mêmes problèmes que Pierre-Yves si on buvait la tasse.
On a perdu nos cheveux comme Pierre-Yves, je pense.
Ah oui, d'accord. Pierre-Yves Leroux, que vous vous retrouvez sur le Tour de France. Évidemment, on est sur des blagues transversales. Et oui, mais les gens connaissent l'équipe de l'Intégral Tour, évidemment, vous êtes attachés. Maria, est-ce que la concurrence est résignée face à Poggi?
Alors ici à Kigali, on parle beaucoup de l'ego de Tadej Pogacar qui a pris un coup dimanche dernier après s'être fait rattraper par Remco Evenepoel sur le contre-la-montre. Est-ce qu'il va vouloir prendre sa revanche ou était-ce de la méforme? En tout cas, le Belge, son principal adversaire aujourd'hui, ne veut pas partir trop confiant.
J'ai beaucoup de motivation et ce n'est pas lié au contre-la-montre. Il ne faut pas partir trop confiant, on doit garder les pieds sur terre et se rappeler que Tadej est le meilleur coureur de ces dernières années. On a un plan et on va s'y tenir, peu importe qui sont les coureurs en face.
Et Pogacar l'assume, il n'a pas aimé se faire humilier dimanche dernier et compte bien rendre aux Belges la monnaie de sa pièce.
Remco a pris sa revanche sur le Tour de France quand il s'est fait rattraper par Jonas sur le contre-la-montre en montagne. Dimanche, c'est mon tour de gagner pour oublier ce mauvais moment. Ce n'est jamais agréable quand on se fait doubler de cette manière.
D'autant plus que le parcours semble taillé pour lui. 267 km, 5475 mètres de dénivelé positif. Mais pour Pavel Sivakov, qui roule avec le Slovène toute l'année chez UAE, Pogacar peut se faire surprendre s'il en fait trop.
C'est sûr qu'il est habitué à faire des gros numéros, mais comme on l'a dit, avec les conditions ici, on peut tous s'exposer et on peut peut-être surestimer nos forces. Et à un certain moment, c'est dès qu'on passe en fait dans la zone rouge ici, on le sent directement et c'est très très compliqué de récupérer. Je pense qu'on peut vraiment jouer sur ça.
Ce qui est sûr, c'est que malgré les 1500 mètres, voire 1800 mètres d'altitude, les 80% de taux d'humidité et la pollution, Tadej Pogacar est tout de même immense favori à sa propre succession aujourd'hui.
L'immense favori. Merci Maria, restez avec nous évidemment avec Jérôme depuis Kigali. La victoire peut-elle échapper à Pogacar? Marc Madiot me regarde intensément et nous a répondu oui. Pourquoi la victoire peut échapper à Poggi?
Elle peut échapper à Poggi d'abord parce qu'on est sur une course d'une journée et que les conditions de course peuvent avoir une influence sur le résultat final, mais moi je vais aller au-delà du championnat du monde. On a beaucoup apprécié les propos tenus par Pogacar, notamment sur la fin du Tour de France. Il était fatigué, il avait envie de récupération, il avait besoin de souffler. Et on a retrouvé Pogacar du côté du Canada, plutôt pas mal, mais pas non plus aussi exceptionnel qu'on pouvait l'imaginer. Donc moi, je me pose une question. Est-ce que Pogacar est sur la bonne pente mentale par rapport à son avenir? Et le championnat du monde d'aujourd'hui, pour moi, va être un jour révélateur pour lui. S'il retrouve ses moyens, son engagement mental et physique, il sera champion du monde.
Mais on peut se retrouver dans une situation où ça ratatouille un petit peu, et ça semble être le cas après ce qui s'est passé sur le chrono et sur plus l'attitude et les mots utilisés par Pogacar. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, et ça va nous donner aussi des indices et un intérêt supérieur pour la suite de la saison, mais surtout pour l'année prochaine. Et ce matin, en venant, je me faisais une réflexion. Je me disais, mais Pogacar, ça fait maintenant, en comptant les Tours de France gagnés, ça fait 4 plus 2 fois deuxième, ça fait 6 plus un tour d'Italie gagné, ça fait 7 plus un tour d'Espagne où il avait débuté, ça fait 8. Il a 26 ou 27 ans ?
27 ans.
Ouais, il a déjà 8 grands tours au compteur, plus les campagnes de classique. N'y aurait-il pas chez lui une petite usure, une petite saturation ? Et c'est ce qui va être intéressant à suivre à partir d'aujourd'hui.
Intéressant, ça.
D'ailleurs, il dit qu'il a retrouvé un peu de morale par rapport au Tour de France, où il était vraiment, il avait ras-le-bol de finir la course. Mais il dit qu'il n'a qu'une hâte, c'est que la saison se termine quand même. Hein. Et c'est rare de l'entendre dire ça. Moi, je ne l'avais pas entendu dire ça les années précédentes.
Justement, après l'affront qu'il a reçu, justement, on va voir. Moi, c'est le rebond que j'attends du champion, parfait champion.
L'affront sur le chrono,
oui,
donc,
parce il était même si mentalement, même si physiquement, pardon. Il l'assume et il le dit, il est fatigué, il est usé, il a beaucoup enchaîné. Mais là, c'est la réaction du champion. C'est tout ce que je veux voir. C'est de quelle façon
la réaction, est-ce que le niveau physique sera suffisant pour assumer cette réaction?
Si la tête, c'est... Bon, alors.
Toi, t'y crois en tout cas. Ouais, tu prends la réaction d'orgueil du champion.
Je veux voir le champion qui... Alors, faut pas qu'il en fasse trop, mais je veux voir le champion qui prend la course, qui la maîtrise et quand il faut accélérer... puisse accélérer. Après, bien sûr, il y a le physique. Si ça coince, ouais. Ben là, la tête, elle a beau commander, le physique, il peut malheureusement pas suivre. Mais c'est les grands, grands champions. Et quand ils ont décidé quelque chose, ils sont capables. Et surtout lui, quoi. Il veut finir proprement.
J'entends Jérôme Coppel à Kigali qui a envie d'intervenir également. Tu le vois, Poggi, effectivement, réagir aujourd'hui?
Alors oui, je le vois réagir, bien sûr, en tout cas essayer de réagir. Par contre, même si c'est le grand favori, pour répondre à ta question, oui, moi je pense qu'il peut être battu. D'ailleurs, j'avais noté, parce que je travaille, contrairement à ce que tu crois, monsieur Georges, j'avais noté exactement les mêmes arguments que Marc, c'est-à-dire depuis le Tour de France, il m'impressionne pas du tout, Tadej Pogacar. J'ai l'impression qu'il a pas retrouvé le coup de pédale du mois de juillet, parce que si on rembobine un peu ces dernières semaines et ces dernières courses, à Québec, s'il est bien sur l'attaque qu'il met, il devrait rentrer sur le groupe Julien Alaphilippe. Et à Montréal, l'image est très belle, il laisse gagner son coéquipier, mais s'il est bien, il doit finir tout seul avec une minute d'avance. Et bien sûr, le chrono qui reste quand même l'épreuve de vérité, où là, il a pris un carton et par Evenepoel, et en plus, il se fait battre par deux autres coureurs. Donc, au niveau forme physique, pas au top. Et on a vu avec la course d'hier, et notamment la course des Françaises, et un petit peu chez les Espoirs, qui reflète souvent ce qui va se passer chez les pros, ce circuit est très dur, ça on le savait, mais il y a beaucoup de favoris qui se font piéger. Le circuit est tellement dur qu'ils ont peur de faire trop d'efforts et finalement, eh ben, ils arrivent à s'enterrer et à faire une croix sur leurs ambitions finalement. J'entendais hier soir après la course féminine Demi Vollering dire ça a tellement pas roulé toute la course parce que c'est dur, on essaye d'en garder qu'au moment où il a fallu accélérer, eh ben, on n'a pas pu en fait. On a fait un effort et après il fallait récupérer. Et Tadej Pogacar, normalement, sur une course où il n'y a pas autant de chaleur, il n'y a pas autant d'humidité, etc., rappelez-vous son Tour des Flandres, et à chaque mont il accélérait, chaque mont il en mettait une. Sa stratégie, elle devrait être comme ça normalement si on n'était pas dans ces conditions-là. Il devrait attaquer à chaque petite montée, alors pas du kilomètre 0 au kilomètre 260, c'est pas possible, mais dans la dernière partie de course, pourriser ses adversaires, et on sait que c'est le coureur qui a le plus de cartouches en magasin. Il est capable d'attaquer, de réattaquer, etc., et de faire plier les autres. Mais là, c'est pas pareil, et son équipe a beau être très forte, c'est pas la plus forte peut-être sur le papier.
Bah, c'est pas UAE,
donc il y a vraiment tout... Bah c'est voilà, c'est pas UAE. S'il y avait eu son équipe UAE, ça aurait pu être un petit peu différent. Mais là, et puis il reste quand même Primoz Roglic aussi dans son équipe. On sait que Roglic, ils s'entendent bien, mais il aime bien quand même faire un petit peu sa course. Roglic a de l'ambition. Roglic a un petit peu d'ambition, il a pas fait le chrono, il a voulu se concentrer sur la course en ligne. Donc il y a quand même pas mal d'inconnus autour de sa forme, autour de la tactique de son équipe et autour de comment Tadej Pogacar va réagir à cette chaleur. On sait que avant on disait Tadej Pogacar, il aime bien les conditions sont difficiles. Mais depuis quelques saisons, on voit que quand il fait chaud, ça lui pose pas vraiment de problème non plus. Mais là, faudra vraiment courir entre guillemets à l'économie. Et ça, c'est pas vraiment le point fort de Tadej Pogacar.
Pascal, écoutez dans un instant, mais tu voulais rajouter un truc.
Ouais, je voulais rajouter un truc. Moi, j'ai regardé les courses tout ce week-end, et on s'aperçoit d'une chose, la course est plus facile à l'avant qu'à l'arrière. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe d'une petite dizaine de coureurs à l'avant, vous pouvez lisser vos efforts sur les passages difficiles, et à l'inverse, à l'arrière, quand on veut, ça veut relancer, ça veut se réorganiser, mais on rebute tout de suite dans la bosse suivante, ce qui fait qu'on utilise moins bien et moins longtemps les équipiers. Et donc, la course est plus délicate à gérer à l'arrière, entre les favoris, on l'a vu hier chez les filles, où il y avait un marquage, il y avait des accélérations qui permettaient de reprendre 10-15 secondes, mais l'effort fourni pour reprendre 10-15 secondes était annulé dans la foulée, parce qu'il y avait de nouveau un temps mort. Donc, ce qui fait que c'est difficile d'utiliser longtemps ou très longtemps les équipiers, et les à-coups sont plus délicats et difficiles à gérer à l'arrière qu'à l'avant. Donc si on a un bon groupe de coureurs de bon niveau à l'avant, ça peut durer très longtemps.
Il faut qu'ils prennent d'entrée le lit.
Moi j'adore, on écoute Marc et Jérôme, on a l'impression d'être dans le bus avant les championnats du monde, avec les tableaux devant. Pascal d'abord, on l'a pas entendu. Pascal,
avec tous ces spécialistes,
tu le vois plus en difficulté?
Ouais, je le vois plus en difficulté, mais tout ce qui a été dit, l'argumentaire de Marc et de Jérôme, bon, on peut pas aller contre, mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il fait feu de tout bois depuis le début de saison, il court de partout, et on est en train de se dire, est-ce qu'il est pas émoussé? Non, je pense qu'il est vraiment émoussé, et je pense que si cet après-midi, il surclasse ses adversaires, alors mes doutes vont encore être sans cesse de plus en plus nombreux. Donc, j'espère que la concurrence, va faire en sorte que Pogacar sera en difficulté. Je pense qu'Evenepoel est plus frais que lui, parce que il a abandonné au Tour de France, sa préparation avait été tronquée, et en cette fin de saison, on l'a vu au travers du contre-la-montre, il me semble, même si c'est sa spécialité, il me semble qu'il a écrasé la concurrence. Donc, il faut pas faire fi de la concurrence, et puis aussi de la course. Si on veut faire un parallèle avec Pauline Ferrand-Prévot, il m'a semblé que son coup de pédale à cette championne qui avait écrasé le Tour de France, tout comme Pogacar chez les hommes, j'ai l'impression que son coup de pédale hier était bien moins bon qu'au Tour de France. Donc Pogacar, pour moi, physiquement, ce sera pas aussi dominateur.
Pascal, tu crois pas à la réaction de champion, toi qui as vécu dans des vestiaires, les réactions des champions, des sportifs quand
encore
ils sont...
faut-il en avoir les moyens.
Ouais, avec quand l'essence,
quand t'es humilié comme il a été sur le contre-la-montre. On l'a vu sur le Tour de France, chaque fois qu'il a été piqué, il a réagi comme un champion. Alors j'entends et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, si le physique suit pas, mais moi j'attends vraiment ça. Quoi.
Vous voyez aussi le spécifique de la course. La course est vraiment spécifique, les championnats.
Oui, mais s'il gère sa course, qu'il attaque sur les dernières difficultés, qu'il plante des banderilles.
Non, mais moi je vais aller dans le sens de ce que tu dis, Cédric, Christophe, Pogacar, à chaque fois qu'il a été humilié sur le Tour, par exemple, il le garde dans la tête.
Il avait pleine possession.
Et derrière, deux jours après, il les met tous au garde à vous. Et
oui, mais on n'était pas au mois de septembre.
Mais on était effectivement juste dans la préparation du Tour de France, et je pense que ce sera peut-être plus dur pour lui aujourd'hui. Après, n'enterrons pas trop vite quand même Tadej Pogacar. Il nous a surpris par le passé, et on sait de quoi il est capable. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Et en plus, il y a la spécificité de cette course, c'est pas une course comme les autres. Tu cours en équipe nationale,
sans oreillette,
avec des mecs qui sont tes rivaux tout au long de l'année. Tu parlais de Roglic tout à l'heure. Roglic, il est lieutenant de Pogacar. Mais où? Dans quelle course il est lieutenant? Roglic, il est pas fait pour
lieutenant.
Roglic, il est fait pour être capitaine, pour être leader. Et je suis sûr que s'ils se retrouvaient tous les deux dans le coup, il
y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est l'absence d'oreillette.
Les oreillettes, on l'a vu hier.
J'écoutais hier Jackie Durand sur Eurosport qui disait regardez bien le classement, s'il y avait eu les oreillettes, ça aurait été le même.
T'écoutais pas RMC, toi.
Ouais, Marc. Mais dis donc, c'est quoi ça?
J'écoute quand je suis en voiture.
Mais Ferrand-Prévot et toutes les autres, elles ne savaient pas où étaient les autres. Elles ne savaient pas qui était dans le groupe à l'avant. Et c'est pour ça qu'elles se sont enterrées, parce qu'elles ont mis vachement de temps, je trouve, à réagir. Ouais, mais justement, alors peut-être qu'elles étaient fatiguées, ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure. Mais l'absence d'oreillettes change tout. Mais justement, sans oreillette, l'année dernière, il est parti.
Non, mais voilà ce que j'allais dire.
De l'arrivée. Oui.
Il a besoin de maîtrisé.
Donc, pas d'oreillette, en fait, prend la course, il la supporte et il est capable. Alors, la température, le parcours, c'est pas le même, je suis d'accord. Mais la réaction de champion, il peut aller chercher ça tout seul. Tout seul.
Il va partir au premier kilomètre. Non.
Il est même parti. On l'annonce déjà parti avant les autres.
Non, mais on va voir effectivement si on a la réaction du champion. Jérôme, tu voulais rajouter un truc là-dessus?
Non, je dis oui, le fait que ça soit une course sans oreillette, ça change pas mal de choses, mais pour revenir rapidement sur les Françaises hier, c'est pas qu'une question de pas d'oreillette, ou alors ça a mis en lumière des faiblesses tactiques chez nos Françaises et chez d'autres concurrentes. Donc ça, c'est encore un autre problème. Ça veut dire que tu sens pas la course, tu vois pas quand t'as un coup de 10 filles qui partent et tu laisses l'écart monter à 2 minutes, etc. Tadej Pogacar, normalement, sur toutes les courses qu'il a faites sans oreillette, il a toujours était là. Alors, est-ce qu'il a toujours été là parce qu'il est fort
géré,
ou est-ce
c'est
que...
Ouais,
bah, est-ce que... C'est ça ma question. Est-ce qu'il sait gérer ou... Mais c'est pas sûr qu'il sait gérer, parce qu'en fait, il est tellement fort. T'as pas besoin de gérer. À Zurich, tu pars à 100 km de l'arrivée, t'as pas de gestion. T'es juste fort, t'appuies sur tes pédales et t'écrases tout le monde. Mais dans une course plus tactique comme ça, on verra. Si, pour moi, Tadej Pogacar, même à 90%, il a encore de la marge sur ses adversaires. Maintenant, faut que les adversaires, entre guillemets, s'allient à un moment donné pour essayer d'isoler Pogacar.
Tu sais bien que les alliances, c'est toujours délicat. Les alliances.
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et surtout que, on va pas se cacher, Marc le sait très bien, il y a aussi beaucoup de coureurs UAE dans d'autres pays, dans d'autres nations. Et on a déjà vu par le passé des coureurs de pays différents s'allier. Ça arrive toujours.
Parce que ça, c'est intéressant. Les alliances ne sont pas les spécialistes de vélo, peut-être ne le savent pas. Mais donc, on est avec le maillot des sélections nationales au championnat du monde. Mais on n'oublie pas vraiment, peut-être, le maillot de l'équipe de Marc.
Ils peuvent être neutres. C'est-à-dire que s'il y a un coureur du quel qu'il soit qui attaque, qui sort dans un coup, on va attendre que ce soit d'autres coureurs de d'autres formations qui réagissent. C'est pas forcément un coureur de UAE qui va réagir derrière un coureur du UAE. Il y aura un temps de latence et c'est ces temps de latence qu'il faut gérer et apprécier.
Tout à fait.
Et le fait qu'il y ait pas d'oreillette avantage Pogacar. Parce que lui, il est électron libre, il fait comme il a envie et comme il le sent sur toutes les courses.
Par exemple, toi, tes coureurs Groupama FDJ, est-ce que si il y a un coureur Décathlon CMA qui est à l'avant, est-ce qu'ils vont favoriser sa victoire? Non, je sais pas. Est-ce que
non, mais je pense qu'au niveau des équipes nationales, non, mais à l'intérieur des équipes nationales, je pense pas qu'il y aura de problème. C'est plus dans les schémas de course et les moments de course. Si vous avez à, je sais pas, 10, 15 kilomètres de l'arrivée, Del Toro qui attaque.
Del Toro, le coureur mexicain de l'équipe UAE.
Del Toro attaque. Pogacar. Et derrière, vous avez un groupe de 5-6 coureurs avec Pogacar, Van der Poel et 2-3 autres. C'est pas Pogacar qui va réagir le premier. C'est ça que je veux dire. Il va pas courir
contre.
Il va pas courir pour, mais il va profiter de la situation du fait que c'est un UAE qui est devant. Et il y a des pactes. Peut y avoir un pacte de non-agression entre les coureurs du UAE. Chacun défend son drapeau, chacun défend.
C'est les accords tacites.
Mais c'est une impression tacite. Et moi, je suis à la place de Pogacar. Je vois Del Toro qui attaque. Je profite de la situation.
Ben oui, j'y vais en faire de relais.
Il y a des mecs dans chaque équipe nationale.
Mais oui.
C'est la constitution de son équipe.
Ça fait partie des choses non écrites et non dites.
Il a acheté la paix sociale avec un petit dernière fois, en plus, en laissant gagner.
J'adore le fait qu'on ait ce genre de discussion ici, parce qu'on se dit souvent que c'est des légendes de journalistes, ça. Ouais, quand même, les équipes de marque, championnat du monde. Mais ici, on dit les choses.
Mais je n'ai aucun doute sur l'intégrité
et
sur le respect du maillot par chacun des coureurs de chacune des sélections.
Les alliances, elles se construisent quand là. C'est au fil de la course.
C'est du feeling. C'est une histoire de feeling. C'est une histoire de feeling. Quand vous courez toute l'année avec quelqu'un, si c'est lui qui attaque en premier, vous allez vous dire ouais, c'est mon pote, je ne vais quand même pas y aller le premier.
Il y aura une exception à ça, c'est Ayuso, exactement.
L'espagnol qui va quitter UAE un peu fâché, qui va rejoindre l'équipe Idol Trek l'année prochaine.
Il va foutre le bordel. Oui, déjà, Sven Mosel attend de pied ferme.
C'est
plus.
Ça, ouais, dans l'équipe Idol Trek. Ah, c'est intéressant. C'est les feux de l'amour, le vélo. Il a un peloton, c'est une petite société, et c'est intéressant toujours d'en parler. Allez,
il faut toujours se souvenir d'une chose. Dans un peloton, il faut être gentil et être poli avec tout le monde. Parce qu'un petit peut vous faire perdre un jour.
Ouais, mais attends, en même temps, Marc, je t'ai déjà entendu aussi dire sur le vélo, il faut être méchant.
Oui, il faut être méchant, mais ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre.
Ouais, il faut être faux cul, quoi, Marc.
Pour faire du vélo, il faut être gentil, intelligemment et méchant.
Il faut être un gentleman agressif.
Allez, dans quelques instants, on va parler des Français justement sur cette course. Il faut être gentil ou méchant. Allez, on en parle dans quelques instants, tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec Christophe Cessieux, Pascal Dupraz, Cédric Emans, Marc Madiot et Jérôme Coppel. Depuis Kigali, il est là-bas et Maria Azé également sur place. On va vivre aujourd'hui une journée dingue sur RMC avec la course en ligne des championnats du monde que Marc va écouter sur RMC toute l'après-midi pendant 7 heures.
Exactement.
Voilà, c'est ce qui est prévu. Tu vas rester dans ta voiture, du coup. Ouais. Alors, on a fait du tableau noir il y a quelques instants et on est rentré dans la tête des favoris. C'était fascinant avec vous. Vous parlez de Tadej Pogacar notamment. Il faudrait qu'on parle des Français. On n'a pas trop parlé des Français finalement depuis le début. Il y en a. Oh. Mais ça, c'est terrible parce que tu sais qu'il y en a un champion du monde.
Ça, on va le repasser
la semaine prochaine. Ah ouais, voilà. Et Thomas Voeckler sera pour tirer les oreilles, le sélectionneur national. Je rappelle les Français. Mais Alaphilippe, Valentin Paré-Peintre, Madouas, Barré, Bernard, Jégat, Sivakov, Sexas, Maria.
Pourquoi il n'y a pas Romain Grégoire d'ailleurs qui...
Il préfère les championnats d'Europe.
Ah, il préfère les championnats d'Europe. Ouais.
Coureur de l'équipe Groupama FDJ, donc
ouais, il est dans une forme en Bretagne.
Ouais, mais c'était un peu trop dur pour lui.
D'accord. Ouais. Oui, parce qu'il faut rappeler que les championnats d'Europe, c'est dans une semaine. Ouais. Donc là, il a fallu, quand on est sélectionneur, réfléchir un petit peu. Il y a des gros programmes. Hein. Et d'ailleurs, Pogacar, il va faire les Europes. Il va également faire le Tour de Lombardie. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais gros programme.
Attendons ce soir pour savoir s'il ira.
Attendons ce soir. J'aime bien avec Marc, il a. Il imagine tout l'esprit de Poggi. Maria, les Français, ils y croient ou pas? Quel est leur état d'esprit avant cette course?
Ils sont réalistes quand même, nos Français. Ils savent qu'ils ne partent pas favoris sur cette course en ligne et que Pogacar pourrait survoler la course. Mais Julien Alaphilippe veut y croire.
Il est grand favori, bien sûr, surtout qu'il sera certainement revanchard du chrono. Mais je pense qu'à partir du moment où on a fait le déplacement, où on prend le départ, il y a une chance, même si elle est infime, qu'on fera le bilan dimanche soir.
Et l'équipe de France compte sur son collectif avec des coureurs d'expérience comme Julien Alaphilippe, Pavel Sivakov ou Julien Bernard, mais aussi des petits jeunes comme Paul Sexas, 19 ans depuis 4 jours et qui a tout à gagner sur ce genre de course.
Les chances sont forcément pas extrêmement grandes parce que c'est quand même un parcours qui est très très dur. C'est un parcours qui est vraiment taillé pour les coureurs très costauds. Après, c'est pas tout d'avoir le parcours mais aussi d'avoir les jambes le jour J et d'avoir les conditions qui sont alignées. On sait jamais ce qui peut se passer, c'est pour ça qu'il y a toujours une chance d'aller chercher une gagne.
Car tout peut arriver sur une course d'un jour comme les championnats du monde. On l'a vu hier avec la victoire de la Canadienne Magdalene Vallière qui a surpris tout le monde. Le sélectionneur Thomas Voeckler garde son mental de vainqueur.
On a régressé au sein de la hiérarchie mondiale. On n'est pas dans les plus forts sur le papier. Mais je ne sais pas faire autrement que d'aller essayer de gagner. Je sais pas faire ça. Donc même s'il y a un dixième de pourcent de chance qu'on soit champion du monde, on va la saisir.
En tout cas, on l'a compris, ils n'ont pas l'intention de se cacher. Nos Français, on pourrait avoir du très beau spectacle cet après-midi, messieurs.
Je ne sais pas faire autrement que d'essayer de gagner, dit le sélectionneur Thomas Voeckler. En a-t-il les capacités cette année, Marc?
Il l'a dit, les chances sont infimes. Mais le parcours et le déroulé de la course peut peut-être venir à notre secours à un moment ou à un autre dans cette journée. L'équipe de France n'est pas favorite. Elle va pas forcément être extrêmement surveillée et essayer de prendre des coups d'avance et de bien gérer les situations de course à l'avant de la course tout en n'en faisant pas trop peut permettre d'avoir un ou deux Français dans le final et profiter des concours de circonstances de course qui peuvent se révéler intéressantes s'il y a des temps morts. Pour qu'un Français puisse gagner, je pense qu'il faut qu'on soit capable de prendre des coups d'avance sans dépenser d'énergie et bien gérer le coup d'avance tout en étant très discret dans les échappées et surgir dans la dernière partie de course. C'est ce qu'a fait la Canadienne hier et elle l'a bien fait. J'ai eu un échange de WhatsApp hier soir avec Valentin Madouas et il m'a dit elles nous ont montré l'exemple hier, ce qu'il fallait faire. Et je pense que l'équipe de France va être dans cette option-là. Être présent, anonyme.
Qui peut le faire partir comme ça?
Il y a plusieurs. Il y a 5-6 coureurs français qui peuvent être dans un coup et qui peuvent profiter de la situation.
Ouais, je vais vous dire,
il faut faire ce qu'a fait Alaphilippe à Québec, dans la gestion de sa course. Moi, j'étais devant ma télé, j'étais fou. En fait, vous aviez Alaphilippe dans le contre. Il y avait une échappée devant. Il y avait le contre avec Alaphilippe et le peloton derrière. Alaphilippe était dans le contre. Il n'a pas pris un seul relais. Il a profité des situations de course. Il s'est retrouvé à l'avant dans le final. Et en fait, il a vraiment participé à l'action de course dans les 5 derniers kilomètres. Et il a été gagné. Donc en fait, la philosophie de course de l'équipe de France doit être ce qu'a fait Alaphilippe sur le dernier Grand Prix de Québec. S'ils sont capables de faire ça, et s'ils ont les circonstances qui leur permettent de faire cela, ils peuvent jouer un rôle pour le titre.
Christophe, t'avais pas l'air très confiant, toi, pour les Français.
Non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai. Il va falloir la jouer tactique. Et c'est vrai que Thomas Vauclair nous a toujours habitués, justement, depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France.
Bon, même quand il était coureur, il était malin. Hein.
Ouais, c'est un mariole, c'est un malin. Il sent la course. Donc, il va essayer de placer les mecs où il faut dans les bonnes échappées. Il faut pas non plus partir trop tôt parce que.
Il faut être devant sans consommer.
Voilà. Mais il faut être devant. Mais est-ce qu'il faut être devant dès l'échappée matinale ou est-ce qu'il faut y arriver un peu
plus tard? Pas de l'échappée matinale. Voilà. Et quand on va arriver sur le circuit final, il y a des coups qui vont sortir et comme on l'a vu hier, c'est difficile d'aller chercher.
Par grappe en plus.
Ouais, et c'est difficile d'aller chercher les coups qui sortent. Parce qu'on consomme plus pour aller rechercher que pour laisser partir.
Et le fait qu'il n'y ait pas d'oreillette,
et dans les zones entre les deux bosses, on s'aperçoit d'une chose. L'échappée qui est devant, sans appuyer sur les pédales, mais en continuant sur un rythme fluide et limpide, prend du temps gratuitement. On prend du temps gratuitement sans consommer d'énergie. Mais, et c'est ce qui a fait la différence.
Je viens d'apprendre un truc là, Marc. Donc en fait, pour avancer en vélo, il ne faut pas appuyer sur les pédales.
Ou tout du moins, il faut gérer
tout le contraire de ce que je ressens quand je suis sur un vélo.
Déjà, tu montes sur le vélo, c'est bien.
Mais toi, derrière Jérôme, Marc, derrière, tu te laisses emmener jusqu'au bout sans donner un coup de pédale.
Tiens, Jérôme, avant de te donner la parole à Kigali, juste on a Franck au 32-16 qui nous appelle. Salut Franck.
Salut, bonjour à tous.
Grand fan de vélo, tu nous appelles du Calvados. Bon, tu penses que la France a un coup à jouer, toi?
Bah, ils ont un coup à jouer, c'est pas déjà ils sont pas favoris, donc en général quand on n'est pas favori c'est là qu'on marche le mieux. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on est parti pour de toute façon pour avoir un outsider, un second couteau champion du monde, vu la course. Père comme dit Marc, je pense que ça va être très très difficile d'une équipe prenne la course en main lorsqu'il y a une échappée. Mais il va falloir être dans le bon coup et je pense que ça va jouer surtout au plus malin. Et on a une bonne équipe, on n'a pas de tête de gondole, mais on a une équipe solide, un bon collectif. Et si on se retrouve, comme dit Marc, dans le bon coup, ça peut aller au bout. Parce que on parle de Pogacar sous la chaleur, j'attends de voir. Et puis, à part peut-être les Belges, mais il y aura très très peu d'équipes, il va falloir visiter ou autre. Il va se retrouver dans le bon coup, ça va être surtout très tactique. Pas mettre trop de coups de pédale, et puis celui qui mettra la bonne cartouche ira au bout, c'est tout. Donc je pense qu'on va avoir un demain, on va avoir un champion du monde de second couteau ou outsider.
Jérôme Coppel, t'es d'accord avec Franck? On a un coup à jouer?
Ah mais bien sûr qu'on a un coup à jouer. Prendre la course en main sur ce parcours-là, c'est très difficile. Quelle nation aurait intérêt à prendre la course en main? Celles qui ont un grand leader, un grand favori. Slovénie avec Pogacar, Belgique avec Remco Evenepoel. Mais on a vu que c'était très compliqué de garder les équipiers. Quand tu fais un effort, quand tu dépasses cette fameuse zone rouge, t'as besoin de prendre un peu de temps pour récupérer. Des fois, t'as pas ce temps mort. Du coup, tu sautes, tu fais sauter tes coéquipiers. Donc, très dur de prendre la course en main. Nous, on a des coureurs qui sont très malins. Alors, bien sûr, Julien Alaphilippe, on le sait. Valentin Madouas court très bien et on a des coureurs surtout qui sont très endurants. Cette course va être très longue, très usante, très difficile. Il faut des coureurs qui, au fur et à mesure des kilomètres, bien sûr, ta forme baisse un petit peu, mais qui soient vraiment endurants. Et ça, on a ça en magasin, on a ça dans l'équipe de France. Et là où je rejoins Marc, c'est de prendre un coup d'avance. Et Marc dit, on a vu que dans les bosses, après les bosses, l'échappée prenait des secondes gratuitement. En fait, ce qu'on se rend pas du tout compte à la télé, c'est qu'entre les bosses, il y a des faux plat montant, notamment vers la zone de ravito après la ligne d'arrivée. Et en fait,
c'est mal plat.
Les filles hier, ça a été ça. Elles font toujours l'effort, et les coureurs, c'est souvent le cas, font toujours l'effort dans la bosse, et après, ont besoin de récupérer sur le faux plat derrière. Et en fait, c'est rarement dans les bosses que tu fais l'écart. Dans la bosse, tu vas prendre un tout petit écart, mais dans le faux plat derrière, si t'arrives à en remettre, c'est là où tu fais l'écart. Et quand t'as un coup d'avance, quand tu roules régulièrement, bah, tu perds du temps dans la bosse parce que tu roules moins vite, mais tu continues ton effort sur la même allure dans le faux plat montant qui suit. Alors que quand t'es en chasse pour reprendre un groupe, t'attaques dans le plus dur en essayant de faire péter tout le monde, et après, t'as besoin de te rasseoir pour souffler un petit peu. Et du coup, ça, tu prends 20 secondes, t'en repères 30, etc. Tu fais le yo-yo, comme ça s'est passé hier. Donc nous, on a un paquet de coureurs dans cette équipe de France capables de prendre un coup d'avance. Je pense à Madouas, je pense à Sivakov, même Paul Sexas. Louis Barret est très endurant aussi.
Julien Bernard
on a beaucoup
aussi.
De de néophyte, ouais, Julien tout Bernard, monde, qui fait. Marche très très bien, on l'a vu à la Volta, bien sûr. Le seul qui va avoir une petite pancarte, mais plus comme avant, c'est Julien Alaphilippe, mais les autres, ils ont tous leur carte pour prendre un coup d'avance.
Bon, et bah écoutez les amis, là, je
ils nous ont refilé la fête.
Franchement, là, non ?
Ah, ce soir, je le sens prêt à chanter la Marseillaise, Jérôme, ce soir.
Regardez la girouette. Il y a 10 secondes, il a dit, bah, on est sur la course.
Mais non, il m'a convaincu.
Bien sûr.
Jérôme, dès qu'on parle d'équipe de France, de toute façon, il se met au garde à vous et il fait salut militaire.
Non, mais là, franchement, entre Jérôme et Marc, déjà, vous comprenez, vous, les auditeurs,
avec le général,
que c'est une journée spéciale. On se croirait sur le Tour de France, là, au départ d'une étape de montagne décisive. Mais la course au maillot arc-en-ciel, évidemment, elle fait vibrer tout le monde. Merci Jérôme, merci Maria. On vous retrouve évidemment tout au long de la journée pour cette course en ligne. Ça part à quelle heure, Maria?
9h45, ça part dans 2 minutes.
Mettez-moi la chaîne, là. C'est ce bordel, là.
Tu vas l'écouter, Christophe.
Mais je veux voir aussi.
Tu vas l'écouter. On va le dire. Pogacar est parti. Non, c'est une blague. On vit ça toute la journée, évidemment. Dans quelques instants, le zapping. On remercie Franck de nous avoir appelé au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Avec Cédric Hébans, Pascal Duprat, Christophe Cessieux et Marc Madiot, on a largement présenté la course en ligne des championnats du monde qui vient de s'élancer pour les garçons à Kigali, au Rwanda, en Suisse, à toute la journée évidemment. On reviendra s'il y a le moindre événement important avec Maria Azé et Jérôme Coppel sur place. Tiens, événement, je vous rappelle, dans les grandes gueules du sport, vous pouvez remporter vos places pour le match de Ligue des Champions OM Ajax ce mardi à 21h au Vélodrome. Pour remporter deux places, envoyez foot par SMS au 732-16. Foot au 7-32-16. Le grand gagnant est annoncé à 11h30. Dans quelques instants, on parlera du PSG aussi, de l'hécatombe des blessés à 3 jours d'affronter le Barça. Mais d'abord, les GG, le zapping.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Vous me dites si vous en foutez ou si vous en foutez pas. Critiquer Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, quand on est joueur français du top 14, peut coûter cher. Cédric Hémans.
Je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Marc Madiot.
On ne s'en fout pas.
Ah, alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Fred Carcy, le capitaine de Montauban, a eu des propos très véhéments contre le sélectionneur dans une interview au site Rugby Pass. Je le cite, Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j'ai eu, c'était à Montpellier, mais aussi la plus grande merde sur le plan humain. Pour ses propos, la licence du rugbyman a été suspendue, je ne l'ai pas dit, pour la fédération, avant que l'avocat de Proval, le syndicat des joueurs, ne la fasse annuler en fin de semaine. Il n'a pas joué hier, effectivement. Décision du staff, mais il était quand même au stade. Il a été acclamé par les supporters. Il est cité, il va comparaître ce mercredi devant la commission de discipline de la FFR. Je crois bien que Galthié a réagi dans le Parisien. Je respecte tous les joueurs que j'entraîne et que j'ai entraîné depuis 20 ans dans une carrière. Il arrive que des relations sportives soient marquées par l'incompréhension ou la déception, c'est humain. Non. Tu voulais en parler, Cédric ?
Oui, parce que je suis pour qu'on respecte l'institution et ceux qui la représentent, mais là, ça va beaucoup trop loin. Alors, si mes infos sont bonnes, c'est la LNR ou la Fédé qui saisit la LNR pour suspendre le joueur. Un avocat s'en mêle, on lui redonne sa licence, il va être convoqué. S'il y a un accrochage entre un joueur et un autre entraîneur qui n'est pas Fabien Galthié, c'est-à-dire l'entraîneur de sélectionneur de l'équipe de France, est-ce que ça fait autant de bruit? Non.
Et est-ce que la Fédé s'en mêle?
Est-ce que la Fédé? Non. Alors après les propos.
Oui, mais c'est le sélectionneur.
J'entends.
C'est le sélectionneur, sauf que ce joueur-là n'a jamais été en sélection.
Il l'a eu comme entraîneur.
Et après, il le dit dans son interview, c'est un des meilleurs entraîneurs qu'il a eu sur le plan technique, tactique.
C'est pas pour ça qu'il est suspendu.
Mais c'est pour le reste.
Il aurait dû le dire dans l'autre sens.
Il aurait dû le dire dans l'autre sens.
Vous êtes très fort, monsieur Galthié. Alors, quel entraîneur? Je pense que ce serait mieux passé. Mais là, c'est d'abord je cajole et ensuite je fracasse.
Pascal, tu me réagis.
Non, mais en fait, il a le droit de dire ce qu'il veut, que ce soit le sélectionneur ou l'entraîneur, il n'est pas obligé d'utiliser le mot qu'il a utilisé. À mon avis, c'est ça qui est trop véhément, c'est trop dur. Et parce que c'est le sélectionneur, alors la Fédé se croit obligée de protéger son sélectionneur.
Mais Pascal, c'est ça qui est gênant. Pourquoi la Fédé vient s'en mêler?
Ouais. Non, je veux dire, si Galthié se sent agressé et insulté, il répond lui ou il l'attaque en justice et il règle ça en justice. Mais je trouve que la justice sportive, en l'occurrence la fédération sportive qui se mêle de ce truc-là et qui va agir en censeur, je trouve que c'est pas son rôle.
Moi, je trouve que c'est pas drôle.
Gatier, elle est quand même obligée de protéger son sélectionneur.
Ouais,
elle
est dans son...
Après, bah oui, là, c'est, on est dans l'injure publique.
J'ai peut-être vous choqué, mais ses propos, ils vous gênent réellement quand il dit que c'est une.
Ben, c'est une insulte, quand même.
Cédric, tu sais que je connais beaucoup d'entraîneurs de rugby, beaucoup de joueurs de rugby, mais jamais personne me dit réellement ce que j'entends tout le temps sur le sélectionneur, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de si répréhensible, ce sélectionneur? Tout le monde semble avoir une aversion à ce sélectionneur. J'ai l'impression de vivre ou de voir ce que
non, mais alors tu sais quoi, Pascal, c'est pas tellement depuis qu'il est sélectionneur, je pense qu'il a mis de l'eau dans son vin, mais que dans les clubs où il est passé, notamment quand il a eu quand même pas mal de succès, ça s'est très mal passé dans certains clubs
sur son management,
sur son management, sa façon de parler avec les joueurs, la façon de les motiver.
Alors tu vois, Christophe, c'est toi qui m'en dis plus. Merci, Christophe.
quel lanceur d'alerte, Christophe Cécile.
Non, mais alors moi personnellement, je connais Fabien, j'ai toujours apprécié ce garçon-là, mais j'ai jamais été sous ses ordres. Bien et sûr, quand tu es sous ses ordres, je pense que et qu'il est pas content de toi, il te le fait savoir. Il y en a qui ont quand même bien morflé et même en sélection.
Après, c'est le mode de fonctionnement de Fabien Galthié. Alors, il y a des joueurs, ça les fait réagir, ça les fait, il tend un ressort et d'autres, ben, ils sont pas capables de supporter cette pression. Alors, bien, pas bien. En tous les cas, lui, le capitaine de Montauban, Kersi, pardon, l'a pas supporté. On le sait, Fabien Galthié est un grand sélectionneur, un grand entraîneur. Mais sur les relations humaines, voilà, il y a pu y avoir des tensions, même si, comme tu disais,
quel est l'entraîneur ou le sélectionneur qui a pas de tension avec un de ses joueurs,
Pascal,
c'est ça le truc aussi.
Enfin, c'est pas tous les jours que t'entends ce genre de choses de la part d'un ancien joueur.
La dernière fois que j'ai entendu au sujet d'un sélectionneur, c'était Cantona.
Ouais, Cantona sur Henri Michel, c'est un sac à
un sac à la même chose.
Sac à pareil.
On l'embrasse, hein, Cantona. Allez, on zappe, les amis. Je m'en fous pas. On pourrait voir le retour d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina, hein, Christophe.
Ouais.
Quoi?
Ça m'intéresse.
Ah, Pascal.
Non, je m'en fous pas.
Marc?
Je m'en fous pas.
Cédric?
Ouais, je passe là. Je les laisse s'exprimer.
Ouais, c'est ça. Ouais, l'idée de prendre des coups.
Ça va friter. À vous maintenant. Alors, je vous explique. Le Comité international paralympique a décidé de réintégrer les comités russes et belarusses. Une décision qui a provoqué la stupéfaction de Marie-Amélie Le Fur. C'est la présidente française du Comité paralympique qui dénonce un manque de cohérence et craint une fracture durable du mouvement paralympique à l'approche des Jeux. Parce qu'avec cette décision, en fait, les athlètes russes et biélorusses peuvent espérer participer aux Jeux de Milan Cortina.
Avoir été contrôlé.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que la balle est désormais dans le camp des fédérations internationales de chaque sport, de chaque discipline, qui en fait va décider pour. En fait, la fédération, le comité paralympique international, a dit les fédés, débrouillez-vous maintenant avec ça. Nous allons en parler, Christophe.
Ouais. Oui, moi je trouve que c'est un magnifique message envoyé au maître du Kremlin et à ses sbires. C'est tout est pardonné, Vladimir. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez réintégrer le concert sportif international. Vous menacez l'Europe occidentale en faisant survoler les pays de l'OTAN par vos drones. Pas de souci, vous pouvez continuer à le faire. Vos athlètes vont être à nouveau acceptés dans le grand concert olympique. On a été obligé de vous exclure quelque part. Bon, on voulait pas le faire, mais tout est oublié. Voilà la réflexion que ça m'inspire. Et la loi de la force et de la violence reste la plus forte. Et nous, eh bien, on baisse encore une fois notre pantalon devant Vladimir.
Non, politiquement, il me semble que les États dans le monde ne baissent pas leur froc. Là, il s'agit de sportifs. C'est tout ce que je voulais dire. Je vois pas pourquoi des Russes et des Biélorusses ne participeraient pas à leur compétition internationale. C'est tout. Voilà.
Mais sans leur drapeau.
Explique-moi pourquoi. C'est pas eux qui déclenchent les guerres, quand même.
Non, mais c'est dès que la politique rentre dans le sport, ça crée des
tennis. Medvedev et Sabalenka sont là, hein. Marc.
Je trouve qu'on vit une drôle de période. Et c'est peut-être le moment de se dire que le sport doit retrouver la place qui est la sienne. Et le sport, c'est des rencontres, c'est des adversaires qui se respectent et qui s'affrontent avec des règles. Et le sport devrait justement servir de moyen de rapprochement entre les différents.
C'est bien, c'est une arme politique, le sport.
Ouais, mais justement, il faudrait sortir du politique. Le sport devrait pas être politique. Ouais. Ne devrait pas être politique. Et devrait être un lieu d'échange et un havre de paix.
Il y a beaucoup de gens qui se chargent.
Pour les gens qui se retrouvent.
Ils se chargent d'en faire un message.
Oui, mais c'est pas
bon. On parlera tout à l'heure de ce qui se passe avec l'équipe.
L'équipe Israël Première Tech sur le vélo qui a été exclue du Tour des Mili. Donc c'est la politique est plus
que
jamais
d'Europe la semaine prochaine
avec une grosse présence policière. Effectivement, donc la politique s'invite tous les week-ends en fait dans la grande ville du sport. Ça nous dit quelque chose peut-être de l'époque dans laquelle on vit.
Mais c'est pas d'hier.
On parle tout à l'heure, Christophe. Il faut quand même que je dise rapidement en Ryder Cup, les Européens mènent 11,5 à 4,5.
Quel spectacle. Il a
grippé
la scène ou non?
Cédric Hamon, je le dis, sinon il n'allait pas rester.
Exactement, sinon je partais. Quelle démonstration des Européens.
Je suis d'accord avec Cédric, je partais aussi. Quel spectacle, Pascal.
Mais viens, on va jouer au golf tous les deux.
Du coup, on vous laisse, on restera avec Marc Madiot et Christophe Cessieux.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.